Andréane Mélard.
Merci Edouard. RFI Matin tout de suite, c'est le journal des sports. Avec Antoine Grenier ce matin. Bonjour Antoine.
Bonjour Andréane.
Le football pour commencer et les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 dans la zone Afrique.
Et les sélections se réunissent petit à petit pour les 5e et 6e journées de ces éliminatoires avec pour ambition de décrocher leur billet pour la compétition organisée dans un peu plus d'un an aux États-Unis, au Mexique et au Canada. 9 places directes réservées aux nations africaines pour cette première Coupe du Monde à 48 et certains se prennent à rêver à l'image des Comores sous les ordres de Stéphane Okusie. Les sélectionneurs de Youssouf Changama veulent poursuivre leur belle dynamique. Déjà qualifiés pour la phase finale de la CAN, ils sont aussi leaders de leur groupe d'éliminatoire du mondial, Cédric De Oliveira.
Pour l'instant, tout se passe bien pour les Comoriens. 3 victoires en 4 journées dans ces éliminatoires et une première place du groupe I partagée avec le Ghana. Et la Coupe du Monde n'est plus une utopie pour Youssouf Changama et ses partenaires.
Pourquoi pas? C'est avec beaucoup d'humilité et d'ambition qu'on aborde ces qualifications. On est devant et l'objectif, c'est de pouvoir rester le plus longtemps possible. Mais voilà, il y a du temps, il y a beaucoup de matchs. Donc voilà, il va falloir travailler très dur pour obtenir le rêve de tout un peuple.
Les Comores visent une première participation historique pour leur pays pour poursuivre sur leur lancée après une autre campagne d'éliminatoire réussie pour la phase finale de la CAN 2025 et des victoires face à la Tunisie, la Gambie et Madagascar. Les Sélacantes, comme on les surnomme, ne sont plus considérés comme une équipe de seconde zone.
C'est normal qu'on soit plus attendu. Il y a eu un gros travail du staff, de tout le monde pour que on puisse garder la tête froide et continuer d'avancer avec beaucoup d'humilité. Donc on va être attendu. Donc ça veut dire que c'est d'autres matchs. Il y a pas d'effet de surprise dans les matchs.
L'échec de la non-qualification à la CAN 2024 est maintenant derrière les Comoriens, mais le programme est encore long et seul le premier du groupe gagnera son billet pour la Coupe du Monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada.
Cédric De Oliveira, les deux rencontres des Comores auront lieu jeudi face au Mali et mardi prochain face au Tchad. Des matchs qui se joueront à chaque fois au Maroc.
Sélection toujours, mais chez les jeunes, Fousseni Diawara prend en main les U23 maliens.
L'ancien international, retraité en 2015, est de retour dans le nid des aigles. Le triple demi-finaliste de Cannes a été nommé sélectionneur. Il rejoint les aiglons en compagnie de son ancien partenaire Sambasso, nommé lui au poste de manager général.
Le foot en Europe pour finir, Antoine, Tabita Chawinga et Lyon visent les demi-finales de la Ligue des champions féminines.
La Malawite, 9 buts en 20 matchs, s'est parfaitement adaptée au club qu'elle a rejoint l'été dernier. Chawinga qui a disputé les demi-finales de la Ligue des Champions la saison dernière avec le Paris Saint-Germain et qui rêve de faire mieux avec Lyon. Ça passe par une victoire face au Bayern Munich ce mardi à partir de 20h temps universel. L'OL finaliste la saison dernière, brillant jusqu'ici avec 6 victoires en autant de matchs de poule et que son entraîneur, l'Australien Joe Montemurro, veut amener vers un 9e sacre européen.
It's where we want to be. It's the top.
On est là où on voulait être, dans ce top 8, au contact des plus grands clubs d'Europe, au niveau du palmarès, de la réputation, de la qualité, la crème, pour gagner le plus beau des trophées. C'est une perspective, une occasion très excitante. Je pense que l'équipe qui l'emportera pourra dire qu'elle a battu les meilleurs. C'est comme un nouveau mini-tournoi, on peut le dire comme ça, qui commence maintenant.
Et autre quart de finale aller de cette Ligue des Champions à partir de 17h45, temps universel entre le Real Madrid et Arsenal.
Antoine Grenier pour le Journal des Sports. À tout à l'heure, Antoine.
RFI, toute l'actualité, Andréane Mélard.
Au moins 220 morts, dernier bilan fourni cette nuit par la défense civile palestinienne après des frappes particulièrement intenses menées cette nuit par Israël sur la bande de Gaza. Une première depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu entre l'État hébreu et le Hamas le 19 janvier dernier. Des frappes sur des objectifs terroristes appartenant au Hamas selon l'armée israélienne, décidées selon un communiqué du gouvernement israélien suite au refus répété du Hamas de libérer les otages. Le Hamas, selon qui le premier ministre israélien et son gouvernement ont ainsi décidé de torpiller l'accord de cessez-le-feu, exposant les prisonniers à Gaza à un sort incertain. Fin de citation. La Maison-Blanche, de son côté, dit avoir été consultée par Israël avant ces frappes à Gaza. Donald Trump et Vladimir Poutine doivent s'entretenir par téléphone ce mardi et ce sera officiellement leur deuxième conversation téléphonique depuis le retour du milliardaire républicain à la Maison-Blanche. Il doit être question du plan de cessez-le-feu américain pour l'Ukraine pour leur valider uniquement uniquement par Kiev. Il n'y aura finalement pas de représentant de la FCM 23 ce mardi à Luanda pour les discussions prévues sur la situation dans l'est de la RDC. Elles auraient été les premières négociations directes avec Kinshasa, bientôt 3 mois après le début de l'offensive du groupe dans le nord et le sud Kivu. Et puis on l'apprend ce matin, les 2 astronautes américains coincés à bord de l'ISS depuis plus de 9 mois ont quitté tôt ce mardi la station spatiale internationale. Ils doivent atterrir ce soir en Floride. La mise en garde de l'OMS est claire. Le chef de l'Organisation mondiale de la santé l'a dit hier lors d'un point presse à Genève. La vie de millions de personnes à travers le monde est menacée par les coupes décidées par l'administration Trump dans l'aide financière à l'étranger. Une situation critique notamment pour l'Afrique et l'inquiétude porte notamment sur la sécurité alimentaire du continent. Mais elle n'est pas sans solution, cette situation, dit Ibrahim Hassan Mayaki, ex-premier ministre du Niger. Il est aujourd'hui envoyé spécial de l'Union africaine pour les systèmes alimentaires. Et il est notre invité ce matin au micro de Christophe Boisbouvier.
Ibrahim Hassan Mayaki, bonjour.
Bonjour.
En 50 ans, le déficit alimentaire de l'Afrique est passé de 10 à 25%, c'est-à-dire que le continent africain est obligé d'importer 25% des produits alimentaires qu'il consomme. Comment répondre à ce défi ?
Alors, on est obligé de reconnaître que malgré les progrès qui ont été faits pour accélérer la productivité et la production agricole, on s'est heurté à une croissance démographique qui est quasi unique dans l'histoire de la démographie.
Une croissance très rapide de la
population. Absolument, très rapide de la population. Et la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est que nous sommes importateurs nets de produits alimentaires. La FAO chiffre cela à peu près 100 milliards de dollars par an. Ces 100 milliards de dollars proviennent de la poche de consommateurs africains et s'ils pouvaient être réalloués ou alloués dans la transformation des systèmes agricoles, on importerait beaucoup moins de produits alimentaires.
Alors pour produire plus de biens alimentaires, il faut évidemment investir dans l'agriculture. Il y a un peu plus de 20 ans, en 2003, à Maputo, les quelques 55 pays de l'Union africaine se sont engagés à investir 10% de leur budget national dans l'agriculture et le développement rural. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est ?
Il n'y a pas beaucoup de pays qui ont atteint ces 10%. On peut estimer à une dizaine de pays le nombre de ceux qui ont atteint ces 10%. La courbe est positive, mais le nombre est quand même faible.
Oui, 10 alors, sur 55.
10 sur 55. Alors, il faut dire qu'aujourd'hui, s'est développé un débat sur le contenu de ces 10%. Ce qui est au cœur de la question, c'est que nos investissements publics dans le secteur agricole doivent être beaucoup plus importants qu'ils ne le sont, et évidemment 10%. Deuxièmement, ces investissements publics ne sont pas suffisants, il faut attirer des investissements privés. Et une chose que la plupart des gens ne savent pas, c'est que les premiers à financer l'agriculture africaine aujourd'hui, ce sont les petits agriculteurs.
Eux-mêmes. Et il faut investir dans quoi, docteur Mayaki ? Dans les cultures vivrières, dans les engrais, dans quoi ?
Alors, l'approche système alimentaire, à travers le terme système, met l'accent sur une dimension multisectorielle. C'est-à-dire que pour transformer l'agriculture, on a évidemment besoin d'input, d'intrants. Des engrais. On a besoin de semences, on a besoin de routes rurales, on a besoin de formation, on a besoin de capacités digitales, on a besoin d'énergie. On a besoin de tout un tas de facteurs qui relèvent de secteurs différents. Et c'est la coordination des investissements dans tous ces secteurs qui fait système. Et c'est là que se pose la question en termes de planification. Alors, il faut investir sur l'appui aux producteurs. Et cet appui aux producteurs doit être aussi un appui financier. Le deuxième type d'investissement qui doit être fait, c'est les investissements dans les infrastructures.
Les routes.
Et c'est comme ça, d'ailleurs, que l'Éthiopie a réduit son problème de famine. Parce qu'il y avait des régions excédentaires et des régions déficitaires. Et quand Bele Zenawi connecte les deux régions à travers les infrastructures, ça permet à l'Éthiopie de réduire ses problèmes de famine.
Le 25 janvier, Donald Trump a décidé de suspendre l'USAID pour 3 mois. Or, l'aide humanitaire des États-Unis, c'est 60 milliards de dollars par an. Quel est l'impact pour l'Afrique et notamment pour sa sécurité alimentaire ?
Le premier signal, et j'en parle depuis quelques années, c'est qu'il est important pour les pays africains d'anticiper sur la disparition de l'aide publique au développement. Et deuxièmement, ça entraîne évidemment une mobilisation des ressources nationales. Si nous avons des stratégies de mobilisation de ressources nationales beaucoup plus efficaces, nous serons à même de faire face à ce manque de ressources. Lorsque j'étais Premier ministre, nous avions fait un calcul rapide sur nos recettes douanières et nous nous étions rendus compte que si nous augmentions de 3 points nos recettes douanières, ça pouvait être équivalent quasiment à l'aide publique au développement. Donc nous avons des efforts de gouvernance interne très importants à faire. Donc il faut prendre cela comme un choc, mais ce choc doit être résorbé par la définition de capacités internes et la mobilisation de nos ressources internes.
Monsieur le Premier ministre, merci.
L'envoyé spécial de l'Union africaine pour les systèmes alimentaires, Ibrahim Hassan Mayaki, il répondait à Christophe Boisbouvier. Début avril, cela fera 2 ans que le Soudan est le théâtre d'une guerre sanglante. 2 ans aussi que le conflit a provoqué une réorganisation du commerce de gomme arabique issue de l'acacia et utilisée comme additif naturel. Bonjour Marie-Pierre Olfant.
Bonjour.
Malgré tout, Marie-Pierre, la gomme continue de s'exporter du Soudan.
Et de bien s'exporter. En 2024, le pays aurait expédié 70 000 tonnes de gomme arabique. On est revenu à des volumes à peu près normaux, explique un industriel français qui dit travailler encore aujourd'hui avec les fournisseurs qu'il connaît depuis des décennies. Le gros de cette gomme transite par Port-Soudan. C'est aussi dans cette ville portuaire située sur la mer Rouge que les opérations de tri et de nettoyage de la gomme autrefois réalisées à Khartoum se sont délocalisées. Les circuits ont donc réussi globalement à se réorganiser car tout le monde y a un intérêt, producteurs et importateurs évidemment.
Le business continue donc, c'est ce que vous nous dites Marie-Pierre, mais dans le contexte actuel de ce conflit, la traçabilité est-elle possible ?
C'est évidemment la question et la préoccupation aujourd'hui de la filière qui a été interpellée sur le sujet. Plusieurs informations ont circulé dans les médias sur la mainmise des forces rebelles sur des zones de production, mais aussi sur leur implication dans les exportations illégales de gomme vers les pays frontaliers. Des informations que des industriels cherchent à recouper, même s'ils restent convaincus qu'ils sont peu exposés à ce risque. La guerre a de fait créé de nouvelles routes pour la gomme soudanaise, ce qui a notamment permis à l'Égypte de voir ses exportations bondir de plus de 900% l'année dernière. Un bond à relativiser, les volumes en jeu restent faibles par rapport à ceux exportés directement du Soudan.
Et pour réduire leur dépendance au Soudan, les importateurs achètent aussi de plus en plus ailleurs.
Le Soudan reste incontournable, mais effectivement, les acheteurs ont renforcé leurs liens avec les pays de la bande sahélienne où poussent les acacias. Le principal, c'est le Tchad, voisin direct du Soudan. Le pays a augmenté ses exportations de 40% entre 2023 et 2024. La gomme constituait déjà un revenu économique intéressant pour les Tchadiens et l'est encore plus aujourd'hui grâce à des prix incitatifs. En 2 ans de conflit, ils ont augmenté de plus de 30% pour certaines variétés de gomme arabique.
Marie-Pierre Olfant pour notre chronique matière première. Sur RFI, notre grand reportage du jour nous emmène en Inde avec une conséquence concrète et visible depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Le renvoi de centaines de migrants illégaux. Ces dernières semaines, ils arrivent dans le pays par avion militaire, enchaînés comme des esclaves ou des prisonniers. L'humiliation est grande, surtout pour le Premier ministre nationaliste indien Narendra Modi, proche de Donald Trump. Illustration terrible aussi du désespoir de millions d'Indiens qui ne trouvent pas de travail chez eux et sont prêts à risquer leur vie pour entrer aux États-Unis. Les migrants indiens expulsés par Donald Trump, symbole de la crise économique en Inde. Un grand reportage de Combastin. En voici un extrait.
Amritsar, plus grande ville du Punjab, au nord de l'Inde, le 16 février. Un avion militaire perce le brouillard hivernal et atterrit sur le tarmac de l'aéroport. Il s'agit d'un C-17 utilisé par les États-Unis pour le transport de troupes. Ce Boeing n'est cependant pas venu débarquer des soldats.
Nous commençons ce journal avec des informations de dernière minute. Un troisième avion transportant 112 déportés américains a atterri à l'aéroport d'Amritsar. Parmi les déportés figurent des personnes originaires du Punjab, de l'Haryana et du Gujarat. Samedi, un avion militaire américain transportant 117 immigrants illégaux indiens, dont 65 du Punjab, a atterri au même aéroport. Ceci fait suite à la déportation de 104 personnes tôt le 5 février.
À bord, Jasnoor Singh, 19 ans. Son grand-père, Mangal Singh, est agriculteur. Il vit à une heure de route d'Amritsar.
Avant que l'avion atterrisse, je ne savais pas que mon petit-fils était à bord. C'est lorsque la télévision locale a donné la liste des personnes expulsées que j'ai réalisé qu'il était de retour. Je savais qu'il était sur les routes illégales. De nombreux enfants du coin ont traversé la frontière des États-Unis comme cela, ainsi que certains de mes proches.
Donc vous, au Punjab, vous avez entendu parler de Donald Trump alors qu'il était en Amérique du Sud, c'est ça ?
Oui, je savais qu'avec Trump au pouvoir, il serait certainement expulsé. Je ne pouvais qu'espérer et prier Dieu pour sa sécurité. Nous avons appris que lorsqu'il avait été transféré dans un camp aux États-Unis, il avait été forcé d'enlever son turban. Dans notre religion, c'est quelque chose de choquant, car le turban sikh fait partie de notre identité, de notre corps.
Les Indiens sont accueillis et interrogés. Beaucoup font part de conditions de transport éprouvantes. Ils ont voyagé enchaînés, sans savoir qu'ils étaient expulsés.
Un grand reportage de Combastin à écouter en intégralité aujourd'hui sur RFI à 12h10 et à 20h40 heure de Paris et à retrouver en ligne sur notre site RFI.fr. Vous restez avec nous dans une minute le journal. On va revenir sur ces frappes israéliennes menées cette nuit sur la bande de Gaza. Restez avec nous.
Bonjour, c'est Juan Gomez. En Guinée, alors que des élections sont censées se tenir cette année, 28 partis politiques sont suspendus pour 3 mois pour ne pas avoir rempli leurs obligations. Parmi eux, le RPG du président déchu Alpha Condé et l'UFR de Sidya Touré, nous lançons le débat.
Appel sur l'actualité
33 9 693 693 70.
Retrouvez Appel sur l'actualité avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
A tout à l'heure sur RFI.
Tout à l'heure sur RFI, de vive voix. Pascal Paradou.
Brûlé debout est le premier roman de Mathieu Blé, publié en France. Au Québec, chez lui, pourtant il est célèbre et n'en est pas à son coup d'essai. Brûlé debout, un western nordique où l'histoire d'une bande de desperados qui veulent en finir avec la société, un roman à la langue enfiévrée.
Écoutez De Vive Voix avec Pascal Paradou, du lundi au jeudi à 13h30 TU sur RFI.